Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Périgord littéraire. Voilà, alors on va laisser les dames de la Renaissance et du Moyen-Âge reposer en paix, et on va prendre un livre de Jean-Louis Hermine qui s'intitule « L'énigme Lascaux ». Alors l'énigme, bien sûr, Lascaux est connue mondialement, et il y a quand même un petit chapitre à l'avant. Les personnages et décors particuliers et situations de ce roman sont absolument imaginaires. Toute ressemblance ne serait que le produit du hasard. Et donc, ce livre est de 500 pages, qui a à peu près un format de poche, est publié par Moisson Noir, la crèche en 2024. Donc, c'est un roman tout récent de Jean-Louis Hermine. Alors, donc, on va voir un peu ce que nous dit. Alors, Jean-Louis Hermine a fait toute sa carrière dans la recherche scientifique, mathématique, intelligence artificielle, gestion d'ingénierie, des connaissances, de la science-fiction et son autre passion. Il a organisé de nombreux événements sur la science-fiction et le fantastique. Il a écrit quelques nouvelles et des scénarios de BD en 2016. Alors, il publie aux éditions Rivière Blanche, Météore, l'univers fascinant de Richard Bessières, et sur un auteur phare de la science-fiction populaire française, initiateur de la mystique collection Anticipation des éditions Fleuve Noir. Il a par ailleurs publié deux romans de science-fiction en 2017, Les Cercles de l'éternité, et en 2019, La prophétie des anciens. Alors, donc ce livre, l'énigme Lascaux, voilà ce que nous dit la quatrième de couverture. L'énigme de Lascaux concerne les nombreux signes abstraits qui accompagnent les célèbres peintures de la grotte, dont personne n'a jamais pu déchiffrer le message. Cette énigme va ressurgir à l'occasion de la découverte d'une nouvelle grotte près de Lascaux. En réalité, c'est au Bugle que ça se trouve. Bon, c'est pas très loin de Lascaux, mais enfin quand même. Et c'est proche d'une grotte qu'on appelle Barabau. Alors Barabau, c'est quelque chose qui tombe, c'est en Occitan. Et bien sûr, l'entrée est un peu encombrée, ou était un peu encombrée, de nombreux blocs. Voilà. Mais sinon, elle est à visiter, et je vous conseille d'aller la voir. Alors, je reprends la lecture. Ornée de décorations rupestres mystérieuses, une équipe scientifique va s'atteler à décrypter avec méthode, rigueur et détermination ces signes inhabituels laissés par les humains du paléolithique. Alors, simultanément, d'autres découvertes étranges sont faites par les mêmes signes mystérieux, sont retrouvés dans une peinture réalisée par un membre d'une communauté aborigène d'Australie représentant un mythe des temps anciens. Ces signes apparaissent aussi dans des sculptures réalisées au sein d'une communauté inuite dans le Grand Nord canadien. Les civilisations anciennes ont-elles laissé un message commun pour les générations futures? L'enquête sera longue et minutieuse, semblable à une enquête policière, qui amènera à revisiter les mythes originel sur la création du monde et l'origine du temps à la frontière entre l'anthropologie, la physique contemporaine et la science-fiction. Alors, je vous laisse découvrir ce livre qui n'est pas tout facile à résumer. Alors, il y a une postface qui est bien sûr qui est intéressante. Alors, il y a un chapitre de cette postface qui s'intitule « La préhistoire et la science ». Alors, voilà ce qu'on nous dit, la préhistoire est un sujet qui passionne depuis longtemps à la fois les scientifiques et le grand public. Les scientifiques y trouvent un sujet d'étude singulier puisqu'il s'agit d'une période pas très bien définie, partant de l'apparition du genre humain à l'apparition de l'écriture. Les matériaux à étudier sur lesquels construire des théories explicatives sont donc particuliers, des interfacts comme des objets en pierre transformés intentionnellement, des traces de vie, d'activité, des fossiles, mais aussi des systèmes de signes souvent mystérieux et encore pas complètement élucidés de nos jours. Alors, découverts dans des sites préhistoriques, en pariétal, dans les grottes, en rupestre, dans des sites ouverts, etc. Alors, l'ingéniosité des scientifiques est fortement mise à contribution pour bâtir des explications et des modèles représentatifs des écosystèmes de vie, de pensée, de spiritualité des hommes préhistoriques. Voilà. Alors bien sûr, il y a d'autres chapitres, et il y a un chapitre qui nous dit une des figures majeures de cette période pionnière est Henri Breuil, bien sûr. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins l'abbé Henri Breuil. Alors, il est né en 1877, je dis bien, et il est décédé en 1973. Prêtre catholique qui s'est illustré par des classifications des industries paléolithiques et des études sur l'art pariétal. C'est le premier préhistorien, professionnel de France, reconnu au niveau international. Il fut professeur au Collège de France et à l'Université de Bordeaux. Il a beaucoup contribué aux études préhistoriques dans la région du Périgord. Il fut notamment le premier préhistorien à étudier la fameuse grotte de Lascaux. Je crois que ce sera un des premiers combats scientifiques, en quelque sorte, je crois, à y pénétrer. Alors donc, un autre personnage clé de la préhistoire en France, dans le monde de la génération qui suit Henri Breuil, c'est François Borde. Alors, François Borde est né en 1919 et il est décédé en 1981. Alors, il était chercheur au CNRS et professeur à l'Université de Bordeaux. En 1956, c'est là qu'il fonde l'Institut du Gartner et a dirigé des fouilles archéologiques dans des sites importants du sud-ouest de la France. La qualité, sa principale contribution, appelée méthode Borde, fut une approche statistique pour décrire la diversité des industries de la pierre du Paléolithique. En 2019, l'Institut du Gartner à l'Université de Bordeaux s'appelle désormais le PASEA, de la préhistoire à l'actuelle, alors culture habilement anthropologie. L'époque du roman, que l'acteur astucieux pourra calculer, il a été rebaptisé Institut de préhistoire cognitive. Alors, par ailleurs, François Borde fut aussi un écrivain de science-fiction reconnu, encore réédité de nos jours, qui a cherché à introduire une certaine rigueur scientifique, notamment ses connaissances propres de chercheur. Alors, dans une littérature qui, selon lui, en manquait, il écrivit sous le pseudonyme de Francis Carsac, nom du village de Dordogne où il repose, devenu depuis Carsac-Aliac, où il avait sa maison familiale dans une rue désormais baptisée rue François Borde. Alors, cette maison, elle est sur la route qui va de Carsac à Aliac, si vous connaissez un peu le coin, et elle n'est pas très visible de la route. Il y a un mur en pierre, mais enfin, je crois que j'y suis passé il n'y a pas très longtemps, et des arbres ont été coupés. Et donc on aperçoit, il y a en réalité, je crois qu'il y a deux maisons, une maison plus ancienne et une maison beaucoup plus moderne. Voilà, alors, Carsac, bon, je me souviens l'avoir rencontré aux Aïssi, au cours d'une réunion préhistorique, je crois qu'on n'était pas tout à fait d'accord, enfin, je n'étais pas le seul avec ce qu'il nous avait décrit. Voilà, mais je pense que finalement, il avait peut-être quand même raison. Et je pense qu'on était jeunes et un peu embêtants. Voilà, alors, bien sûr, il y a les sites préhistoriques, alors la préhistoire passionne aussi le grand public et de nombreux amateurs éclairés, autant que l'histoire des dinosaures. Cette période fascine parce qu'elle est à la fois proche des humains aujourd'hui, il s'agit des ancêtres, et lointaine puisque à des échelles du temps difficilement appréhendables, intuitivement par l'homme moderne. Par exemple, l'homme dit de Cro-Magnon remonte à une date aux alentours de 20 000 ans avant notre présent. Alors, on va continuer un tout petit peu ce chapitre. La préhistoire est connue du public, surtout par la notoriété des sites préhistoriques. La France est très bien notée à la manière, et notamment une région qui est un haut lieu de la préhistoire mondiale dans la région, bien sûr, c'est le Périgord, département administratif de la Dordogne, donc l'ancien Périgord, et qui est la vallée de la Vézère, c'est nommé la vallée de l'homme, sans doute en référence à l'homme de Cro-Magnon, la porte d'entrée de cette immense richesse et le pôle international de la préhistoire sur le lieu même de la découverte de l'homme de Cro-Magnon. Alors bien sûr, tout ça se trouve aux Aïssi de Taillac. Le nombre de sites considérables, 150 gisements et une trentaine de grottes ornées incluant des joyaux préhistoriques, le plus célèbre du monde est la grotte, bien sûr, de Lascaux, qui se trouve à Montignac et non pas aux Aïssi. Alors la grotte de Lascaux est un des facsimilés qui parcourt le monde, actuellement 4. Et oui, il y a 4 facsimilés, attire des millions de visiteurs chaque année. Selon la version la plus crédible, la grotte fut découverte, inventée, dit-on, par le langage du domaine archéologique en 1940, par Marcel Ravida et ses camarades Jean Clausel, Maurice Quérois et Louis Perrier. En fait, c'est son chien qui découvre l'entrée en y poursuivant un lapin. Après des premières explorations de curiosité, il viendra rapidement pour expertiser le site avec le succès que l'on connaît. Il faut savoir qu'une contribution majeure de la découverte des grottes préhistoriques dans la région est apporté depuis plus de 70 ans par le club de spéléologie de Périgueux. Les spéléo-périgourdins ont découvert pas moins de 36 grottes ornées, dont celles de Rouffignac, de Villard, de Cussac, sans oublier leur travail sur le réseau Lascaux, et l'aventure continue toujours. Alors, il y a bien sûr, ce sont les chapitres, on appelle à la grotte de Lascaux, l'original, je l'ai visité deux fois, il y a assez longtemps, mais j'ai été admis une seconde fois. Voilà, alors ça c'était quelque chose de tout à fait personnel. Alors, il y a un exemple cité dans le roman et l'interprétation, donc dans ce roman qui est l'énigme Lascaux, par ailleurs, dans ce roman qui est la bouteille de Klein, c'est l'anthropologue Claude Lévi-Strauss qui a forgé ce concept. C'est un modèle de mathématiques qui peut caractériser de nombreux mythes. Le mythe de la bouteille de Klein est employé très appuyé de l'image du tube et du tuyau. Dans le roman où un tel mythe est décrit, l'histoire aborigène, et à l'origine du tableau, le tube, c'est le didgeridoo, si j'arrive à le dire, c'est sûr, peut-être bien autre chose, une sarbacane, un tronc d'arbre creux, etc. Alors la bouteille de Klein est une figure géométrique très particulière, connue en mathématiques, qui a donné à Claude Lévi-Strauss la possibilité de donner une représentation permettant de comprendre comment on peut passer de l'extérieur à l'intérieur et de repasser à l'extérieur et puis à nouveau à l'extérieur. Alors, j'ai pas très bien compris, mais enfin bon. Mais inverser à travers ce tuyau, ce n'est pas une représentation simple puisqu'elle n'existe que dans un espace à quatre dimensions. Voilà, donc on va, il y a une conclusion à ce livre, alors je vous conseille de lire bien sûr l'énigme Lascaux qui est publié en 2024, un moisson noir. Alors il y a aussi une conclusion, le roman de science-fiction, parlant ici plutôt de fiction scientifique pour écarter un grand nombre de connotations non pertinentes, ici rattachées au terme de valise, science-fiction, s'appuie sur un certain corpus scientifique, un corpus scientifique qui ne peut être maîtrisé que de manière très partielle par l'écrivain. Voilà, à l'avantage d'être construit patiemment par des communautés d'esprit inventifs et rigoureux, d'avoir été validé par des méthodes éprouvées et de présenter un caractère de vérité indubitable. Place ensuite à l'imagination et la liberté romanesque pour prolonger le corpus d'une manière informelle, incontrôlée, onirique et poétique. Alors, nous avons choisi, nous dit l'auteur, nous avons décrit certains éléments du corpus scientifique qui sous-entendent ce roman. Ceci ne se justifie rien et laisse, on espère bien, l'imagination des lecteurs libre d'échafauder ses propres représentations, de sa propre rêverie. Il y a d'autres éléments qui n'ont pas été évoqués, que le lecteur aura intégré dans la mosaïque qui lui a été présentée. Par exemple, les sciences comme l'astrophysique et les mathématiques dont il est beaucoup question dans ce roman. Alors, il dispose déjà d'un bon nombre de documents, de vulgarisation, d'explications disponibles à tout un chacun. Il y a aussi des alignements des planètes, équinoxes, solstices, pour l'avènement de certains événements. L'image de la maternité, partout présente comme un symbole de passage de fonction entre deux univers, voire l'univers énigmatique des impressionnistes, etc. Je vais terminer le chapitre à l'instar d'une cosmogonie qui n'est jamais simple et toujours très chargée symboliquement. Ce qui compte, ce n'est pas l'accumulation de métaphores ou d'allégories, mais la représentation globalisante qui se construit peu à peu au fil des découvertes. C'est une trame romanesque, nous espérons avoir permis cela, ce qui serait notre ultime récompense. Et donc, bien sûr, c'est ce qu'il y a à la fin donc, de ce livre de Jean-Louis Hermine, l'énigme Lascaux. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, ensoleillée, et à lundi prochain.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.